Ce soir, on va ouvrir le troisième volet de la série qu'on a commencé depuis le début de la saison. Cette série, elle est intitulée « Suis-moi ». Et vous vous souvenez que « Suis-moi », c'est l'appel que Jésus a formulé, qu'il a adressé à certains de ses contemporains. Et quand il a dit « Suis-moi », c'était pour que ces personnes qui entendaient cet appel deviennent ses disciples. Et on est en train de voir ensemble quels sont les différents aspects, quelles sont les différentes choses qu'on est appelé à trouver quand on se rassemble ensemble, dans le groupe de jeunes ou dans l'église, pour pouvoir devenir des disciples. Vous vous souvenez des cinq éléments qui sont nécessaires pour que nous puissions être des disciples, que nous devons trouver à chaque fois que nous nous rassemblons? Alors on en a déjà parlé, on a déjà évoqué deux. On va en voir un troisième ce soir. Alors quels sont ces différents éléments? On va réfléchir ensemble, il faut qu'on revienne un peu, qu'on se remémore ces choses-là. Qui a une idée? Alors ça, c'est une réponse. C'est une réponse à quoi, l'obéissance? Parce qu'on a parlé de l'obéissance. Mais l'obéissance à quoi? On est appelé à obéir à quoi? À l'appel. Et l'appel t'amène à écouter. À écouter quoi? Voilà, à écouter la parole. Et donc à obéir à la parole. Donc le premier élément qu'on doit trouver quand on se rassemble et qui va contribuer à ce que nous devenions des disciples, à nous fortifier, c'est l'enseignement, la parole. Et quand on se rassemble, on ouvre la parole, on médite la parole ensemble, parce que c'est là qu'on trouve ce que Dieu veut nous communiquer, ce qui est bon pour nous. Il y a la parole. Deuxième élément qu'on est appelé à trouver, c'est ce dont Sandrine nous a parlé, lorsqu'on avait parlé la dernière fois de ce thème-là, c'est le service, c'est ça. On est appelé aussi à servir dans le cadre d'une église. Aujourd'hui, on va parler des relations fraternelles. C'est le troisième élément qu'on est appelé à trouver et à vivre, à partager dans le cadre d'une communauté chrétienne, d'une église. Et puis les deux autres éléments qu'on verra par la suite, c'est le témoignage et puis l'adoration. Mais ce soir, ensemble, on va se consacrer à les relations fraternelles. Bon, ça, c'est un bon sujet. On sait les uns et les autres que la foi chrétienne, être chrétien, c'est d'abord une décision personnelle, c'est une décision individuelle. Comme on vient de l'évoquer, à un moment donné, Jésus se révèle dans notre vie, il nous dit « suis-moi » et on est appelé à faire le choix personnel de répondre à sa parole, de prendre cette décision, de faire ce choix, de devenir le disciple de Jésus ou de pas devenir le disciple de Jésus. À un moment donné, on a fait ce choix d'être chrétien ou d'être chrétienne. C'est un choix individuel, c'est un choix personnel. Mais dans la foi, il faut aussi réaliser qu'il y a une dimension collective, une dimension communautaire. Et c'est plutôt de ça qu'on va parler ensemble ce soir. La foi, c'est pas quelque chose qui se vit tout seul dans son coin. C'est pas quelque chose que tu es appelé à vivre d'une manière isolée, même si tu as pris une décision individuelle. Parce que le projet de Dieu, c'est que ceux qui ont la foi se retrouvent. C'est que ceux qui ont la foi se réunissent, se rassemblent. Et ils forment ensemble ce qu'on appelle l'Église. Être connecté à Dieu te conduit inévitablement, j'ai envie de dire, à te connecter aux autres, et en particulier avec ceux qui ont la même foi que toi, qui partagent ta foi. On peut lire un premier verset ensemble, qui se trouve dans la première lettre de Jean, au chapitre 4 et au verset 20, et il est dit à cet endroit, « Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. En effet, s'il n'aime pas son frère qu'il voit, il ne peut pas aimer Dieu qu'il ne voit pas. » On ne peut pas affirmer avoir une relation avec Dieu d'un côté si on n'a pas de relation avec les autres personnes qui ont une relation avec Dieu. À partir du moment où on est en contact, on est connecté avec Dieu, on ne peut pas dire « j'ai pas besoin de relation avec les autres personnes qui croient en Dieu ». C'est ce que ce verset nous enseigne. Il y a des mots très forts qui sont employés pour qualifier le type de lien qui existe entre les chrétiens et entre les chrétiennes. Des mots qui ont un sens très fort. Est-ce que vous savez comment les chrétiens sont appelés dans la Bible? Un mot qui qualifie le genre de relations qu'ils sont appelés à avoir, les croyants. Et la réponse, elle n'est pas très loin. Hein. Ouais, c'est ça. C'est dans le verset qu'on vient de lire. Le mot qui est employé pour désigner la relation des chrétiens et des chrétiennes entre eux, ce sont les mots « frère » et « sœur ». Alors qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que des chrétiens et des chrétiennes sont appelés à former s'ils s'appellent frères et sœurs? Et voilà, unanimité, une famille, des frères et des sœurs ensemble, ils forment une famille. Et pourquoi est-ce que des chrétiens et des chrétiennes sont appelés à former une famille? Parce que parce qu'on a le même Père. C'est ça, toi, connecté à Dieu, forcément connecté aux autres qui partagent ta foi. On est appelé à former une famille en tant que croyant. Nous sommes liés les uns aux autres. Non pas tant par engagement les uns par rapport aux autres, qu'en fonction de l'engagement que nous avons pris par rapport à Dieu. Parce que j'ai cette relation avec Dieu, presque logiquement, presque inévitablement, je suis appelé à avoir des relations avec ceux qui ont la même foi que moi. Dans une église, c'est d'abord Dieu qui nous unit. Vous voyez, c'est la volonté de Dieu, c'est comme ça qu'il a prévu les choses, et c'est Dieu qui nous unit les uns et les autres, qui nous appelle à avoir des relations les uns avec les autres. C'est pour ça que la relation fraternelle, c'est pas optionnel, c'est pas un truc que tu décides, c'est pas un truc que tu fais si tu as envie ou si tu n'as pas envie, c'est comme ça, c'est prévu, c'est dans la Bible, c'est ce que Dieu a pensé, et c'est ce qu'il a voulu pour chacun d'entre nous. Dans une famille, on choisit pas son frère, on choisit pas sa sœur. Des fois, on aimerait bien. Quand on s'est pris la tête la veille avec son frère, avec sa sœur, tu rentres du lycée, tu rentres du collège ou de la fac et tu la retrouves là, bah tu peux pas appuyer sur le bouton supprime. Tu peux pas dire bon bah aujourd'hui t'es plus ma sœur, t'es plus mon frère. On est bien d'accord. Tout le monde a des frères et des sœurs là. Il y a que Guillaume qui est béni ou ça fonctionne comme ça. On se retrouve avec notre frère ou avec nos sœurs, avec nos frères ou avec nos sœurs. Non pas en fonction de notre choix, mais en fonction du choix que nos parents ont fait. Parce que nos parents ont eu la bonne idée de vouloir aimer plusieurs enfants. Vous savez que l'amour ne se divise pas, mais que l'amour se partage continuellement. Des fois, quand il y a un nouvel enfant qui arrive dans une famille, c'est un drame. Généralement, c'est le premier enfant, ça peut arriver, c'est pas automatique, mais le premier enfant qui est dans la famille, il peut avoir un peu du mal à accepter qu'il y a une petite sœur ou un petit frère qui arrive. Vous avez déjà connu ça? Parce qu'il a l'impression que l'amour de ses parents, il va plus avoir autant d'amour de la part de ses parents. Il pense que ça va se passer comme ça. Il dit, bah voilà, moi j'ai tout ça, j'ai tout l'amour de mes parents, mais maintenant que j'ai un petit frère ou une petite sœur, bah j'ai plus avoir que ça. Ah, ça le fait baliser, il n'aime pas ça, et il fait des crises des fois. Alors s'il y a après une autre petite frère ou un autre petit frère ou une autre petite sœur qui arrive, bah, il faut encore diviser. Et ça, c'est une fausse image de l'amour. C'est pas comme ça que ça fonctionne dans une famille, et c'est pas comme ça que ça fonctionne avec Dieu non plus. Parce qu'en réalité, ça fonctionne de la manière suivante. Il y a l'amour que nos parents nous portent, et puis après, il y a l'amour que nos parents portent à notre frère, à notre sœur, et puis éventuellement à notre autre frère, à notre sœur. Et Dieu, c'est pareil. Il nous aime tous de la même manière, exactement de la même manière. Donc les frères et les sœurs, c'est pas une option. Ce qui signifie que dans notre vie chrétienne, dans l'Église, c'est pareil, c'est pas une option. C'est pas toi qui choisis qui sera ton frère, c'est pas toi qui choisis qui sera ta sœur, c'est pas toi qui choisis avec qui tu auras une relation, avec qui tu auras pas de relation. Tu es face au choix de Dieu, qui, par amour, a touché quelqu'un comme il t'a touché toi, qui par amour a parlé à quelqu'un comme il t'a parlé à toi, qui par amour a sauvé quelqu'un comme il t'a sauvé. C'est comme ça que les choses nous sont présentées dans la Bible. Dans la lettre aux Éphésiens, au chapitre 5, vous avez cette pensée qui est exprimée. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu, le Père de tous, le Père de tous les chrétiens, de toutes les chrétiennes, qui règne sur tous, sur tous les chrétiens, sur toutes les chrétiennes, agit par tous, les chrétiens et les chrétiennes, et demeure en tous, ou en tous les chrétiens, les chrétiennes. Un seul Père, mais qui agit en tous, qui pose le même regard sur chacun d'entre nous. Alors c'est important qu'on parle des relations fraternelles, puisque elles sont inévitables. Elles sont inévitables. Alors on va voir ensemble pourquoi Dieu encourage-t-il ses enfants à entretenir des relations les uns avec les autres. Pourquoi est-ce que Jésus a prévu que ses disciples, ceux qui ont fait le choix de le suivre, se réunissent, se rassemblent ensemble, et des relations ensemble? Premier point qu'on va aborder tout d'abord, c'est parce qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Vous voyez à quel verset je fais allusion? Ouais, c'est le verset qu'on trouve dans la Genèse au moment du récit de la création. Et c'est ce que Dieu dit, et c'est pour ça qu'il crée la femme. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. L'homme est un être social. Il est fait pour vivre avec ses semblables. Il a besoin des relations avec les autres. C'est comme ça d'ailleurs que l'homme a pu assurer sa survie. et qu'il a pu dominer la planète. Parce que comment est-ce que l'homme aurait fait face au mammouth, par exemple? Comment est-ce que l'homme aurait pu survivre face au tigre à dents de sabre? Tu vois quel animal c'est? Le mammouth, le tigre. Tu vois la menace mortelle que Manny et Diego faisaient peser sur l'être humain. Comment ils pouvaient faire face à ce genre de menace? Si tu prends simplement l'exemple du mammouth, à l'époque de la préhistoire, regarde à quoi ça ressemblait. Le rapport de force qui existe entre un mammouth et un homme. Un mammouth, même par rapport à un éléphant. Le mammouth aujourd'hui a disparu. On a retrouvé des traces des squelettes ou des mammouths congelés en Sibérie. Mais, tu vois, un éléphant, c'est déjà énorme. Ça peut atteindre environ, là, sur l'échelle qui est là, c'est 3 mètres. L'homme, là, il fait à peine 2 mètres. Et le mammouth, il peut pratiquement aller jusqu'à 5 mètres. Alors moi, j'ai lu 4,50 mètres, mais là, sur le graphique, c'est 5 mètres. Comment est-ce que l'être humain, tout seul devant un mammouth, il pouvait survivre? C'est impossible. La seule solution qu'il ait, c'est ça. C'est de se carapater. Parce que quand tu as, je sais pas moi, 5 tonnes de muscles qui t'arrivent dessus comme ça, la seule solution, c'est de partir. Alors si l'homme, il a survécu, s'il a pu faire face aux menaces qui pesaient sur sa tête, c'est parce qu'il s'est réuni avec ses semblables. C'est là qu'il a puisé sa force. L'homme a assuré sa sécurité de cette manière, mais il a aussi assuré son développement. Parce que les hommes se sont regroupés, et quand ils se sont regroupés, ils ont créé des villages. Les villages qui étaient les mieux placés, en particulier sur des lieux, sur des routes commerciales, sont devenus des villes. Et à partir des villes, se sont développées ce qu'on appelle les civilisations. Non seulement ils ont mis en commun leur force, leur énergie, mais ils ont aussi mis en commun leur ingéniosité, leur inventivité. Et c'est ce qui a donné naissance à l'art, à la littérature, à la musique, à la technique, à la technologie. Tout ça, c'est le fruit du rassemblement des hommes. Effectivement, si tu fais un tableau et qu'il n'y a personne pour le regarder, ça n'a pas d'intérêt. Ce qui va pousser l'artiste à faire un tableau, c'est qu'il va pouvoir le montrer à ses semblables. Si tu écris un livre et qu'il n'y a personne pour le lire, pareil, il n'y a pas vraiment d'intérêt. Si tu composes un morceau de musique, mais qu'il n'y a personne pour l'écouter, on peut faire le même constat, le même bilan. Si tu inventes le téléphone, mais que tu n'as personne à appeler, tu vois, la technologie, elle va servir à rien. C'est le contact, c'est le relationnel. Et c'est ce qui montre que l'être humain est vraiment un être social. Et c'est ce qui l'a conduit à développer son inventivité, son ingéniosité et à se développer. Les hommes, ils aiment bien se réunir en particulier autour de ce qu'ils ont en commun. Alors ça, si tu veux t'en apercevoir, il faut que tu ailles au Forum des associations qui est organisé tous les 2 ans par la ville d'Angers. Là, il va avoir lieu au début du mois de novembre, c'est les 7 et 8 novembre, je crois. Et le Forum des associations permet à toutes les associations de la ville et même du Maine-et-Loire de présenter leur activité. Et là, vous avez des associations, mais vraiment des associations pour tout. Alors ceux qui aiment faire du football, ils présentent leur association de football. Vous avez plein d'équipes de sport comme ça qui présentent leurs activités. Ceux qui aiment la cuisine, eh bien, ils présentent leur association pour apprendre à cuisiner ensemble. Ceux qui aiment le patin à roulettes font un club de patin à roulettes. Et vous avez des trucs, même quelquefois, qui paraissent un peu imprévus. Moi, parmi les choses qui m'ont le plus étonné, par exemple, c'était le club des moustachus du Maine-et-Loire. Vous avez des gens qui sont passionnés de moustaches. Et alors, ils se font des moustaches splendides, magnifiques, et ils se donnent rendez-vous pour se voir et pour parler de moustaches. Parce que ce qu'ils ont en commun et ce qui les passionne, c'est la moustache. C'est vrai, hein, j'invente pas. Hein. Le club des moustachus du Maine-et-Loire. Alors, je sais pas trop de quoi ils parlent. Ils disent, bah, regarde comment je l'ai faite, ma moustache. Ils se regardent dans des miroirs. Mais comment t'as fait pour lui donner cet aspect brillant? Enfin, j'en sais rien. Je sais pas comment ça fonctionne. Il doit pas y avoir beaucoup de femmes dans ce club, dans cette association. Un peu misogyne. Mais ils sont réunis par quelque chose qui les passionne. Vous avez une autre association, c'est l'association des ufologues du Maine-et-Loire. Vous savez ce que c'est, les ufologues? Ce sont... Ouais, vas-y. C'est ça. Alors eux, c'est les extraterrestres qui les passionnent. Ils se réunissent ensemble pour parler d'extraterrestres. Ils organisent des sorties pour regarder le ciel, pour voir s'il n'y a pas une lumière étrange et inconnue qui passe. Ils sont passionnés, ils partagent ça, tu vois. On voit bien que les hommes éprouvent le besoin de se retrouver, le besoin de parler, le besoin de partager, le besoin d'échanger. C'est vital. C'est vital pour les hommes. Les êtres humains sont faits pour vivre ensemble, sont des êtres relationnels, et c'est comme ça que Dieu nous a créés. Et l'Église a été voulue par Jésus pour que ses disciples aient des relations les uns avec les autres. Ça répond à ce besoin de sociabilité, à ce besoin relationnel. C'est une question de survie spirituelle. De la même manière que les hommes ont eu besoin de se rassembler, de se regrouper pour faire face aux menaces de leur environnement, eh bien nous, sur le plan spirituel, il est nécessaire qu'on se regroupe, qu'on tisse des relations ensemble pour pouvoir survivre spirituellement, pour recevoir ce que nous pouvons nous donner les uns les autres et faire face à un environnement qui peut être compliqué, qui peut nous menacer aussi. Le développement spirituel, comme je parlais tout à l'heure du développement de la civilisation, ça, le développement spirituel passe par le partage, par l'échange, passe par le contact. Tu peux pas le vivre tout seul, assis sur le coin de ton lit, dans ta chambre. Ça va passer par le relationnel. Là, je vous parle de l'Église. Qu'est-ce que c'est l'Église? Si vous deviez donner une définition de l'Église, comment vous définiriez l'Église? C'est quoi l'image qui vous vient, la première image qui vous vient à l'esprit quand on parle de l'Église? Allez-y, dites. Hein. Relation entre les frères et les sœurs, être ensemble pour louer Dieu, d'accord? Ouais, Victoria, après David. Le peuple, voilà, ok, le peuple de Dieu. Alors là, tu veux dire, même de tout, du monde entier.
Ouais.
D'accord, tu mets les extraterrestres dedans aussi. Ouais, l'église qu'on appelle l'église universelle. L'église, ouais, ok, d'accord, David.
Un rassemblement de chrétiens.
Ouais, tout à fait, ouais. C'est vrai, l'église, avant d'être une organisation, c'est d'abord un regroupement de personnes. C'est un organisme qui est composé d'êtres vivants. Et en l'occurrence, l'Église, là, c'est souvent comparé à un corps. On l'a souvent évoqué là depuis le début de l'année. Mais l'Église est d'abord un organisme composé d'êtres vivants. Je vais faire un petit peu de grec avec toi ce soir. Ça va pas être long, t'inquiète pas. Reste là, s'il te plaît. Mais le mot Église, il vient d'un mot grec, puisque vous savez que le Nouveau Testament a été écrit en grec. Ça vient du mot grec ecclesia. Et le mot ecclesia, ça veut dire assemblée. Et le mot ecclésia a été forgé à partir du verbe ekkaleo, qui veut dire, c'est inscrit sur l'écran, appeler au dehors. C'est vraiment très intéressant de se pencher sur l'étymologie de ce mot parce que dans la Grèce antique, le mot ecclésia désignait l'assemblée des citoyens qui étaient appelés à se réunir pour discuter des affaires de la cité. Ils se regroupaient ensemble, les citoyens, et puis ils parlaient ils choisissaient les magistrats qui allaient gouverner la cité, ils décidaient du montant de l'impôt, ils votaient les lois. C'est un peu comme aujourd'hui les députés qui se rassemblent à l'Assemblée nationale ou les sénateurs qui se rassemblent au Sénat. Le mot ecclésia servait à désigner ce type d'assemblée. Et il y avait des personnes qu'on appelait les héros. Alors les héros, H-E-R-A-U-T-S, pas les héros comme les super-héros. Il y avait des personnes qu'on appelait les héros, dont le rôle était d'appeler les citoyens à sortir en dehors de leur maison pour assister à l'assemblée. Quelquefois même, ils étaient convoqués au son de la trompette, les héros jouaient de la trompette, ou alors ils allumaient un grand feu pour dire aux citoyens qui travaillaient à la campagne que c'était le moment de venir pour assister à l'assemblée. Donc le héros, il passait dans la rue, et s'il y avait un citoyen qui était commerçant, il disait « Allez hop, tu fermes ta boutique, t'arrêtes de vendre, et tu viens à l'assemblée. » S'il y avait un artisan, il lui disait « Tu fermes ton atelier, parce que maintenant c'est l'heure d'aller à l'assemblée. » Et le feu qui était allumé, c'était pour dire à celui qui travaillait dans les champs « Maintenant tu laisses tomber ta bêche, tu laisses tomber ta fourche, et puis tu viens te réunir avec les autres citoyens pour débattre des affaires de la cité. » Vous voyez que l'Église est constituée de gens qui sont appelés à former une assemblée. C'est vraiment ça l'idée de l'Église. Le texto, le message Facebook, le mail que nous avons reçu cette semaine nous ont appelés à former cette assemblée ce soir. C'est vraiment la définition de l'Église, c'est ça. Et l'appel de Jésus qui nous dit « Suis-moi » nous conduit inévitablement à nous assembler les uns avec les autres. C'est ce que faisaient les premiers disciples à Jérusalem. Quand Jésus est monté au ciel, après être ressuscité, les disciples se sont regroupés. Ils sont allés à Jérusalem. C'est ce qui nous est dit au début du livre des Actes, chapitre 1, verset 13. Et quand ils arrivent à Jérusalem, il nous est dit, ils montèrent dans la chambre où ils se tenaient d'habitude, en haut d'une maison, ça veut dire à l'étage. Tous ensemble, ils persévéraient pour prier avec les femmes, avec Marie, la mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Le texte, là, nous dit qu'ils avaient l'habitude de se réunir. Ils avaient pris cette habitude. Alors, il y a des mauvaises habitudes dans la vie, mais il y a aussi des bonnes habitudes. Et je pense que les bonnes habitudes, c'est les habitudes que nous prenons à partir de ce qui nous est dit dans la Bible. Et là, quand on a l'habitude de se réunir, quand on a l'habitude de répondre à ce genre de convocation, comme on l'a fait pour nous réunir ce soir, c'est une bonne habitude. Les disciples avaient l'habitude de se réunir comme ça. C'est ce qui nous est dit aussi un peu plus loin. Au chapitre 2, au verset 42, il est encore question des chrétiens. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la parole, ce qu'on a vu tout à l'heure, dans la communion fraternelle ou la relation fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Et un peu plus loin, verset 46, tous ensemble, ils se rendaient chaque jour avec persévérance au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons, relation encore, et ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Quand l'Église est décrite, il est question de relation, de contact, de relation personnelle. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dieu veut qu'on se réunisse. Dieu veut qu'on se retrouve. Dieu veut qu'on se rassemble. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, pourquoi est-ce que Dieu veut qu'on entretienne des relations les uns avec les autres? C'est pour être influencé. On se fait généralement un point d'honneur à réfléchir par soi-même. C'est très important aujourd'hui. À savoir prendre ses décisions par soi-même. Mais en réalité, nous sommes constamment sous influence. Constamment. On est bombardé de messages. On est bombardé de modèles. Et notre environnement nous détermine. On est constamment sous influence. Le collège t'influence, le lycée t'influence, la fac t'influence. Tout le temps, on est sous influence. Et ce sont forcément les gens les plus proches de toi. Ce sont les gens que tu fréquentes le plus régulièrement qui auront le plus d'influence sur toi. Il y a des statistiques, il y a des études qui ont été faites et qui ont montré que les 5 personnes les plus proches de nous déterminent notre façon de penser, déterminent nos choix, déterminent nos goûts. 5 personnes. C'est pas énorme hein, quand on y pense. Les 5 personnes que tu fréquentes le plus régulièrement, ce sont celles qui auront le plus d'influence sur toi. Ça fait réfléchir là, en train de voir là. Alors qui sont les 5 personnes qui sont les plus proches et qui ont le plus d'influence sur moi? Si tu fréquentes quelqu'un qui critique, il y a de fortes chances que toi-même tu sois quelqu'un qui critique ou qui devienne quelqu'un qui critique. Si tu fréquentes quelqu'un de grossier, qui a un vocabulaire très fleuri comme on dit pudiquement, il y a de fortes chances que toi-même tu aies le même vocabulaire et que tu emploies les mêmes mots. Si tu fréquentes quelqu'un qui boit, qui sort un fêtard, une fêtarde, il y a de fortes chances que toi-même, tu deviennes cette personne. Et pareillement, si tu fréquentes quelqu'un qui prie, il y a de fortes chances que tu deviennes quelqu'un qui prie. Si tu fréquentes quelqu'un qui lit la Bible, il est fort probable que tu vas beaucoup plus facilement prendre l'habitude toi-même de lire la Bible. Si tu fréquentes quelqu'un qui est paisible, qui communique la paix, là encore, très probablement, toi, tu vas aussi devenir quelqu'un qui va diffuser, qui va partager la paix. Si tu fréquentes quelqu'un qui encourage, toi-même, tu vas devenir quelqu'un qui va encourager ton entourage. Ça fonctionne comme ça parce qu'on est constamment sous influence. C'est d'ailleurs ce que dit la Bible aussi. Quand tu lis le livre des Proverbes, au chapitre 13 et au verset 20, il est dit « Celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaît avec les sots s'en trouve mal ». Ça montre bien qu'il vaut mieux subir de bonnes influences, l'influence de sages personnes, plutôt que de mauvaises influences qui vont nous conduire à nous trouver mal. Les relations fraternelles qu'on peut avoir les uns et les autres, dans le cadre de l'Église, dans le cadre de l'Assemblée que nous formons, que ce soit là par l'intermédiaire du groupe de jeunes ou de l'Église de façon plus générale, ces relations fraternelles, elle nous extirpe du contexte habituel dans lequel nous vivons, qui est souvent un contexte de critique, un contexte d'histoire, un contexte de jalousie, un contexte de grossièreté. Enfin, j'invente ou j'invente pas? On voit comment ça fonctionne généralement autour de nous. Eh ben, ces moments-là, ce sont des moments qui nous sortent de ça. Justement, pour subir
une autre influence, pour subir autre chose qui va nous déterminer et qui va nous déterminer à la lumière de ce que Dieu veut, à la lumière de la volonté de Dieu. Si on ouvre la Bible et si on prend des versets à chaque fois qu'on se rend compte comme ça, c'est pour être influencé, c'est pour qu'on puisse être imprégné, c'est pour que ces choses-là nous déterminent, puissent nous passer dans notre tête et qu'on puisse prendre de bonnes habitudes. Un aigle élevé avec des poules ne va pas se comporter comme un aigle. Il y a une énorme différence entre un aigle et une poule. L'aigle, du fait de l'envergure de ses ailes, il a la capacité de s'élever très très haut. La poule, elle a des ailes, mais en fait, elle ne vole pas. Ou c'est quand elle a peur, une poule, ça a tout le temps peur. Tu fais ça, elle est à 3 mètres. C'est un petit cerveau, une poule. Hein. Ça ne vole pas, ça peut pas s'élever. Ça peut pas, c'est tout le temps en train de picorer. Une poule, c'est... J'aime pas les poules. Je trouve que c'est vraiment stupide comme animal. Et ouais, elle a tout le temps le bec rivé par terre, tandis que l'aigle, lui, il s'élève, il peut voir des paysages formidables. Qu'est-ce que tu veux être ? Est-ce que tu veux être un aigle ou est-ce que tu veux être une poule ? Si tu veux être un aigle, c'est pas en fréquentant des poules que tu vas devenir un aigle. C'est clair. Tu vois comment le choix de ton environnement et de tes fréquentations détermineront ta propre capacité à t'élever, à grandir, sur le plan spirituel, sur le plan moral. On avait vu au début de la saison que être en osmose, c'est être ensemble pour s'influencer les uns les autres. Et on se réunit pour s'encourager à prier, pour s'encourager à adorer, pour s'encourager à lire la Bible, pour s'encourager à servir. Ce sont des choses qu'il est souvent plus facile de faire quand on est plusieurs que quand on est tout seul. À toi de voir, par rapport à ce que je viens d'évoquer, mais quelles sont les choses que tu fais quand on se réunit le samedi soir et que tu fais pratiquement pas ou très rarement la semaine ? C'est peut-être la prière, c'est peut-être l'adoration, c'est peut-être de lire la Bible. Et là, tu vas être plus porté à le faire parce qu'on le fait ensemble. Et les relations fraternelles, elles servent à ça. C'est hyper important. C'est pour ça que tout seul dans ton coin, tu peux pas grandir, tu peux pas t'élever. Tu vas être plus comme une poule que comme un aigle. On se réunit pour s'exhorter les uns les autres, pour prier les uns pour les autres, pour se corriger les uns les autres, pour se conseiller les uns les autres, pour partager des expériences les uns avec les autres. Ça sert à ça, la relation fraternelle. C'est pour nous construire, c'est pour que nous puissions porter du fruit dans notre vie. Je vais revenir à ce texte qu'on a déjà lu en début de saison également, dans la première lettre aux Corinthiens, c'est au chapitre 12, verset 20, où l'apôtre Paul dit aux chrétiens de l'assemblée de Corinthe, en fait, il y a plusieurs parties et un seul corps. Et vous vous souvenez que quand il parle des parties ou des membres du corps, il parle des chrétiens, il parle de nous. L'œil ne peut donc pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. Et la tête ne peut pas dire non plus aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Là où j'aurais attiré ton attention sur ces versets, c'est surtout sur ce qui est en bleu là, je n'ai pas besoin, le besoin. En réalité, Paul est en train de dire, vous avez besoin les uns des autres. Vous avez besoin les uns des autres. Le contact avec les autres va être utile pour te rendre compte de tes forces, mais aussi de tes faiblesses. Ça va forcément passer par la relation, ça. Le contact avec les autres va te permettre de développer les points forts que tu as et de corriger tes points faibles. Les autres, ils sont comme un miroir qui nous permettent de nous voir tel que l'on est vraiment. Il y a toujours l'image un peu rêvée de nous, un peu idéalisée, l'image qu'on aimerait bien que les autres aient de nous, peut-être l'image qu'on projette. Mais en fait, le vrai miroir, ce sont les autres qui nous entourent et qui vont nous renvoyer peut-être une image qu'on aime moins sur nos points faibles, mais qui est nécessaire si justement on veut que ces points faibles ne soient plus des points faibles. Mais ça marche aussi dans l'autre sens, dans le sens positif. On a des points forts, on est capable les uns et les autres de nous apporter de bonnes choses. On a des qualités là qui peuvent faire du bien à ceux qui nous entourent. Et les autres sont là pour nous encourager et pour le reconnaître. Et c'est bon, ça aussi. Mais encore une fois, si tu es tout seul dans ton coin, tu ne pourras pas te rendre compte ni des points forts, ni des points faibles. Les relations fraternelles, elles permettent aux uns et aux autres d'acquérir la sagesse. Dans Proverbe, hein, celui qui est avec les sages devient sage. La sagesse, ça c'est important. Pour vous, pour les nouvelles générations, vous êtes nés avec les nouvelles technologies et la connaissance, c'est pas un problème. Parce que l'accès à Internet donne accès à une connaissance phénoménale. Avant, si je voulais savoir quelque chose sur la Birmanie, par exemple, il fallait que j'aille à la médiathèque ou à la bibliothèque. Et dans la bibliothèque, j'étais même pas sûr de pouvoir trouver un livre sur la Birmanie. Aujourd'hui, tu as un exposé à préparer sur la Birmanie ou sur un tout autre sujet. Tu vas sur Internet, tu tapes Birmanie ou si tu fais, je sais pas, une étude sur l'eau potable en Birmanie, ce qui est extrêmement intéressant. Tu vas trouver des données sur Internet. La connaissance, c'est pas un problème. Avec un téléphone qui a la 4G, tu peux aller sur Internet, sur Wikipédia, et avoir un accès direct à la connaissance. Donc, pour votre génération, la connaissance, elle est là, elle est accessible. Mais par contre, la sagesse, c'est pas quelque chose qui s'apprend sur Wikipédia. C'est pas YouTube qui va façonner ton caractère. C'est pas Facebook qui va t'apprendre à cultiver des relations vraies et des relations sincères. Non, ça va passer au travers de la relation que tu vas avoir avec les autres. Et c'est en te frottant aux autres. C'est au travers des contacts et des échanges que tu vas avoir avec les autres que tu vas t'affûter et que tu vas gagner en sagesse. On apprend les uns avec les autres. Et on apprend beaucoup sur le plan spirituel. Vous connaissez le film Seul au monde ? Qui a vu Seul au monde avec Tom Hanks ? Levez bien la main. Oh là, vous êtes... oh, bon, là, il faut corriger. Il faut absolument que vous corrigiez ce déficit dans votre culture cinématographique. C'est un film de Robert Zemeckis qui a été tourné il y a peut-être une quinzaine d'années maintenant. Il passe régulièrement à la télé. La prochaine fois qu'il passe à la télé, ne manquez pas Seul au monde. Ça raconte l'histoire d'un gars qui travaille pour FedEx. En même temps, c'est un film, c'est un gros coup de pub pour l'entreprise de transport et de livraison qui s'appelle FedEx, une entreprise américaine. Le héros, c'est Tom Hanks. Et c'est dans la période de Noël et il doit prendre l'avion et pour l'entreprise pour laquelle il travaille. Et puis l'avion est pris dans une tempête et s'écrase au milieu de la mer. Il est le seul survivant. Il échoue sur une île déserte et il se rend compte qu'il est perdu au milieu du Pacifique et qu'il est sur une toute petite île, perdu vraiment au milieu de l'océan. Et il réalise, il fait même un calcul mental et il se dit mais c'est pas possible, personne va me trouver parce que la zone de recherche elle est trop étendue. Et il est obligé d'apprendre à vivre tout seul, enfin pas à vivre, mais à survivre. C'est un peu comme l'histoire de Robinson Crusoe. Et donc il va apprendre à faire du feu parce qu'il n'avait jamais fait du feu comme ça en frottant deux bouts de bois. Alors ça va être dur, ça va être long. Il va être obligé d'aller à la pêche. Alors il est obligé de se faire un harpon, voilà, qui est grossièrement taillé pour aller à la pêche. Alors, au début il mange cru, puis bon après avec le feu ça va mieux. Il se construit une cabane. À un moment il souffre d'une rage de dents aussi. Et il est obligé de s'arracher la dent. Alors au début, avant, il reportait toujours son rendez-vous chez le dentiste. Et puis là, sur l'île déserte, il se dit mince, vraiment, j'aurais dû aller chez le dentiste. Il est obligé de s'arracher la dent. Et puis il souffre tellement de la solitude que pour pouvoir faire face à ce problème-là, il récupère un ballon qui faisait partie de la cargaison de l'avion. Et puis il va imprimer un visage d'homme. Il va l'appeler Wilson. Et puis il va parler avec Wilson. Ah bon, c'est un peu pauvre hein, comme relation, parce que Wilson il répond pas beaucoup. Wilson il est en bas là. Ouais, c'est le surnom. Enfin, c'était lui il parle. Ce Wilson là il parle. Et ça dure plusieurs années. Il est bloqué plusieurs années sur le... Je suis obligé un peu de vous raconter le film. Et il va réussir à quitter cette île. Et il y a quelque chose qui fait tenir le héros, Tom Hanks, c'est qu'il a récupéré un paquet FedEx qui était destiné à être livré. Et il se dit, ce paquet-là, je le garde parce que j'assurerai la livraison. Quand j'aurai quitté l'île, je donnerai ce paquet. J'irai le livrer à l'adresse et je le donnerai à la personne à laquelle il est destiné. Alors quand il part sur le radeau et tout, il emporte son paquet. Et à la fin du film, on le voit arriver jusque devant la maison. Alors je crois d'ailleurs, si mes souvenirs sont bons, qu'il n'y a personne. Et il met le paquet dans la boîte aux lettres. C'est vraiment un super film. Il y a une pub pour FedEx qui a été tirée, inspirée du film. On va la voir ensemble. Alors elle va passer en anglais, donc je vais être obligé de vous la traduire.
Hi.
Bonjour.
Hi.
Bonjour.
I was marooned on an island for 5 years.
J'ai été confiné pendant 5 ans avec ce colis.
And I swore that I would deliver.
J'ai promis que je viendrai vous le livrer.
Because I work for FedEx.
Parce que je travaille pour FedEx.
That's very
admirable. Merci.
Thank you.
Hey, but by the way,
en fait, qu'est-ce qu'il y a dans le colis?
Nothing really.
Oh, rien de vraiment important. Juste un téléphone satellite, un localisateur GPS, une canne à pêche, un purificateur d'eau et quelques graines.
Just silly stuff.
Des trucs banals.
Thank you again.
Merci encore.
You keep up the good work. Continuez
à faire du bon boulot.
Parce qu'il était tout seul sur son île, parce qu'il était isolé, il n'a pas pu se rendre compte des richesses qui étaient sous sa main. Il n'a pas pu saisir là tout ce qui aurait pu être important pour lui. Il ne l'a pas vu. Et qu'est-ce qui lui manquait? C'est pas Wilson qui allait lui dire, hein, ça c'est clair. Qu'est-ce qui lui manquait? Il lui manquait le contact avec quelqu'un qui savait, qui lui permettrait de s'en rendre compte. Et qui lui permettrait là de se saisir de ses richesses. Tout seul dans son coin, on n'a pas forcément la connaissance. On n'a pas là forcément quelqu'un qui est là pour nous communiquer, pour nous dire ce qui va être bon ou ce qui ne va pas être bon. Et on peut passer à côté des richesses que Dieu veut pour les uns et pour les autres. Pour être influencé, et le dernier point que j'aurais voir avec vous, c'est Dieu veut qu'on se rassemble, veut que ses enfants se rassemblent pour influencer. On se rassemble pour être influencé, mais une fois qu'on est influencé, le but c'est d'influencer. On se rassemble ensemble pour apprendre à changer le monde. Influencer ou apprendre à changer le monde. Il y a beaucoup de gens, et c'est vrai que de plus en plus on entend ça, et de plus en plus aussi dans les nouvelles générations, mais dans l'esprit des gens, changer le monde, ça veut dire faire la révolution. On vit dans un monde en crise, on vit dans un monde où c'est difficile quelquefois en tant que jeune de se dire « mais où elle est ma place ? Comment je vais faire moi ? Parce que là, je suis en train de faire des études, je bosse et puis il n'y a pas forcément tant de possibilités pour trouver du travail. » On a l'impression qu'il y a un problème. Dans notre pays, je trouve qu'il y a un problème. La jeunesse, elle n'est pas extrêmement valorisée. Et on sent que ça commence là à grogner, ça commence à monter, il y a une envie de contestation et on voit même à l'étranger, dans les pays qui sont encore plus touchés par la crise comme l'Espagne, là, ce que ça a pu donner là, dans les années qui ont passé. Mais il y a une autre manière de changer le monde aussi. Parce que le monde dans lequel nous vivons, et c'est pour ça qu'il est comme il est, c'est un monde égoïste, c'est un monde qui est tout le temps en train de critiquer, c'est un monde irrespectueux, irrespectueux des autorités, irrespectueux de Dieu. C'est un monde qui est cynique. Très, très cynique. Et le monde est malheureux d'être ce qu'il est. Les gens se laissent entraîner dans ce tourbillon de gagner de l'argent, d'être populaire, d'être aimé, dans ce tourbillon de s'amuser à tout prix, parce que les gens ne savent pas qu'autre chose est possible. Et l'Église, les chrétiens rassemblés, peuvent montrer autre chose, peuvent indiquer une autre voie, d'autres possibilités. Et parce que nous apprenons ensemble le respect mutuel, parce que nous apprenons ensemble la confiance, parce que nous apprenons ensemble la sincérité, parce que nous travaillons ensemble à nous écouter les uns les autres, parce que nous travaillons et nous affûtons pour gagner en patience, parce que nous apprenons ensemble le pardon, on va transpirer ces choses auprès des gens que nous fréquentons. Et les gens là qui sont sur notre chemin, qui composent notre environnement, ils vont pouvoir être au contact avec autre chose. Toutes ces choses qu'on aura apprises ensemble à la lumière de la parole, à la lumière de l'évangile. Toutes ces choses que nous recevrons, que Dieu nous communiquera parce qu'on se laissera communiquer les uns les autres. Dans le livre des Actes, au chapitre 5, il nous est dit qu'il y avait plein de miracles, il y avait des prodiges qui étaient accomplis dans l'église par les apôtres, parmi le peuple. Et il est dit au verset 12, les croyants se tenaient tous ensemble dans la galerie à colonnes de Salomon. C'était un endroit qui se trouvait dans la cour du temple. Il y avait un portique, une galerie qui s'appelait la galerie de Salomon. Et il nous a dit au verset suivant, « Personne d'autre n'osait se joindre à eux, et pourtant le peuple les estimait beaucoup. » Les chrétiens qui sont réunis ensemble dans le temple montraient quelque chose de nouveau. Les gens qui voyaient les chrétiens se réunir dans la cour du temple, qui les voyaient prier, qui les voyaient étudier la parole, Ils sentaient qu'il y avait quelque chose qu'il n'y avait pas ailleurs. Ils avaient une façon de se comporter, ils avaient une façon de parler, ils avaient une façon de penser, d'envisager les choses qui interpellaient leur entourage. Alors c'est vrai que certains, ils n'osaient pas aller parce que, bon, pour des raisons qui étaient les leurs, peut-être la peur de la persécution ou des choses comme ça, mais ils voyaient bien que ces gens-là, ces hommes, ces femmes qui se réunissaient dans la cour du temple, communiquaient quelque chose de nouveau, communiquaient quelque chose qu'ils ne connaissaient pas. Quelque chose de révolutionnaire. C'était tout ce que ces chrétiens et ces chrétiennes recevaient du Christ et recevaient de Dieu au travers de leur relation qui faisait la différence et qui se voyait. Moi, avant d'être chrétien, je parlais comme tout le monde. J'employais les mêmes mots que tout le monde. Donc, j'étais quelqu'un de... Ouais, voilà, au niveau du vocabulaire, je n'étais pas très sélectif. Par contre, c'est une des premières choses que j'ai commencé à corriger. Quand j'ai reçu le témoignage de l'Évangile, ça s'est passé au travers de ma mère, moi, personnellement. Petit à petit, mon vocabulaire a changé. Les mots que j'ai employés ont changé. Et il y avait de moins en moins de mots vulgaires. Et ma première et ma terminale au lycée, je les ai faites en internat. Parce qu'à la seconde, j'avais pas trop bossé. J'étais passé de justesse et mes parents m'ont dit, pour bosser, tu vas aller à l'internat. Alors en première, c'était bien parce que c'était pas le dortoir, c'était les chambres individuelles. Donc c'était bien, de bons souvenirs de l'internat. Et un jour, j'ai fait connaissance avec des nouvelles personnes que je connaissais pas. Et parmi les personnes avec qui j'avais fait connaissance, quelques semaines, quelques mois après s'être fréquenté, il m'a dit ça. Il m'a dit, mais depuis que je te connais, depuis que je passe du temps avec toi, j'ai remarqué que mon vocabulaire a changé. Je dis plus de gros mots, je suis plus grossier. Et moi, ça m'avait touché parce que c'était justement aussi mon objectif, c'était justement de plus avoir ce vocabulaire-là. Et on s'aperçoit, ou on s'aperçoit pas d'ailleurs, qu'on est nous aussi influents. Et ce que nous sommes impacte les autres qui sont autour de nous. Alors il vaut mieux qu'on les influence dans de bonnes choses. Et je pense qu'en tant que chrétien, en tant que chrétienne, on peut vraiment avoir cet impact dans la vie de ceux qui nous entourent. Je me souviens aussi d'un autre épisode, c'était avec un autre gars. Il avait passé vraiment une mauvaise journée, ça s'était pas bien passé le matin et l'après-midi pendant les cours. Et arrive le soir, ça allait pas quoi, il avait pas le moral, il était un peu énervé. Et il y avait pas mal de passages dans sa chambre. Des gens qui venaient, qui repartaient, puis ça l'a énervé, on était en train de parler, et puis lui, ça l'agaçait, puis il a dit, bon, allez, c'est bon, à un moment, il a élevé la voix, il en est tellement marre, il dit, allez, fichez le camp tous, j'en ai marre, je vais être tout seul, je vais être tranquille. C'était un peu fort comme ça. Alors moi, j'ai pris la direction de la sortie de la chambre, comme tous les autres, puis il me rattrape, il dit, non, 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 toi, reste là. Et je dis, pourquoi, tu veux être tranquille? Il dit, ouais, mais... Avec toi, c'est apaisant. Avec toi, il y a la paix, il y a la tranquillité. Et j'étais premier surpris de ça. Moi, je pensais pas que c'était possible. C'était vraiment au tout début où je découvrais la foi moi-même. Et on a cette capacité d'influencer. Mais c'est pas par nous-mêmes. Je suis pas en train de me dire, ouais, soyez avec moi, vous allez être paisible et tout ça. C'est pas ça du tout. Non, non, je découvrais moi-même ça. De ce que Dieu pouvait faire au travers de nous, des choses qu'on ne soupçonne pas, des choses qui viennent presque naturellement, en fait elles viennent surnaturellement parce que c'est l'Esprit de Dieu qui fait ces choses-là, mais après là, on peut changer. C'est une révolution spirituelle. Si les cœurs changent, la société elle va changer. Et moi je crois que c'est la vraie solution pour notre monde, elle est là. Il faut que les gens changent dans leur cœur. Comment ils vont changer si c'est pas Dieu qui les change? Et comment ils vont savoir que Dieu change si justement on leur montre pas au travers de notre vie que Dieu peut nous changer? Dans l'évangile de Jean, Jésus dit, ce sera le dernier verset, au chapitre 13, verset 34, Jésus dit à ses disciples, je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. Il faut que vous vous aimiez les uns les autres comme je vous ai aimé. Connecté avec Christ, connecté avec Dieu, connexion d'amour avec ceux qui m'entourent. Si vous vous aimez les uns les autres, alors tous sauront que vous êtes mes disciples. On réfléchit ensemble à comment être un disciple de Jésus aujourd'hui. Mais vous avez vu que quand on est connecté avec Christ, avec Jésus, qu'on est son disciple, ça se voit. Si nous apprenons l'amour, si nous nous laissons influencer par Christ lui-même, on va influencer les autres au travers de toutes les bonnes choses qu'il nous aura communiquées. C'est quand même un signe distinctif des chrétiens. Ça se traduit comment ? Ça se traduit par de la bienveillance, ça se traduit par des paroles d'encouragement, Ça se traduit par l'attention que nous portons à ceux qui nous entourent. Et ce que nous apprenons ensemble, c'est ce à quoi nous nous exhortons, est appelé à influencer et à changer le monde. Ça passe par des petites choses. On va prier ensemble et on va juste voir une dernière vidéo. C'était la vidéo que Cédric Mercier devait nous montrer lorsqu'il est venu l'autre dimanche. Et le Seigneur a eu grâce de moi. Il savait, sans doute que Dieu savait que c'était moi qui devais passer cette vidéo. Parce que j'avais prévu de la passer et puis ça n'a pas fonctionné. Les autres ont fonctionné, mais pas celle-là. Donc je suis très heureux de pouvoir vous faire découvrir cette vidéo. Elle est vraiment bonne. La musique est bonne, la mise en scène est bonne, c'est excellent, mais captez le message. Captez ce message-là. Là, tu mets dès le départ. Sometimes I lay under the moon. I thank God I'm breathing. And I pray, don't take me soon, 'cause I am here for a reason. Sometimes in my tears I drown, but I never let it get me down. So when negativity surrounds, I know someday it'll all turn around, because Ça, c'est vraiment bon. C'est dans cette révolution-là que moi, je crois. Je crois que ça, c'est une révolution qui est productive. Ce que nous semons, là, va porter du fruit. Ce que nous nous communiquons les uns et les autres, ce à quoi nous encourageons et nous nous exhortons, ça va nous conduire à montrer quelque chose de différent autour de nous. Et les gens qui sont touchés vont à leur tour toucher les autres. Et c'est comme ça, jusqu'à, vous avez vu, la boucle est bouclée parce que ça revient à celui qui a été au départ de ça. Et nous, on est appelé à être au départ de ça. On est appelé à montrer qu'il y a une autre façon de voir les choses. On est appelé à montrer de l'intention, on est appelé à montrer de l'encouragement. On est appelé à changer le monde de cette façon-là. Et ça, je crois que ce sera une révolution efficace parce qu'elle touchera les gens au fond du cœur, au plus profond d'eux-mêmes. Et ça devrait être notre vision, notre objectif, et j'espère qu'on la partagera. Et ça, c'est le fruit de ce que nous apprenons ensemble dans le cadre des relations fraternelles. Alors on va se recueillir ensemble, je vais demander aux musiciens si vous voulez bien revenir. On va méditer ce qu'on a partagé. Il y a certainement des choses là à prendre pour chacun d'entre nous. Et c'est ce qu'on va faire. Je vous invite à vous recueillir, à réfléchir, parce que la tentation pour les uns et les autres, c'est de faire en sorte que le contact avec les autres soit quelque chose d'optionnel. Je fais si j'ai le temps, je fais si j'ai envie, je fais quand je veux. Mais on voit que bibliquement, et si la Bible a de l'importance pour toi, c'est pas optionnel. C'est pas, tu fais pas les choses quand tu veux. Il faut admettre qu'on a vraiment besoin des autres. Tu peux pas dire j'ai pas besoin des autres dans ma vie spirituelle. Tu peux pas dire c'est pas vital, c'est pas indispensable pour moi. Non, c'est vital. Parce que c'est comme ça que Dieu a prévu. La tendance, souvent, c'est d'être sélectif. Et c'est peut-être aussi ce qui peut se passer dans le cœur de l'un ou de l'autre. C'est de se contenter de fréquenter les personnes que je connais bien. Et puis, je me ferme complètement à la possibilité d'être en relation avec d'autres, d'élargir mon cercle. Je suis là, mais je ne me donne pas la possibilité d'être influencé. Je ne me donne pas vraiment la possibilité d'être influencé. Si je ne me laisse pas influencer, si je ne suis pas preneur de ce que je peux vivre là au travers de la relation fraternelle, je ne vais pas pouvoir influencer à mon tour. Je ne vais pas pouvoir contribuer à ce que le monde puisse recevoir ce dont il a besoin. Peut-être que les relations fraternelles, c'est quelque chose qui te satisfait pas pleinement et complètement. Il peut y avoir des déceptions aussi dans le cadre des relations que tu as pu avoir avec des membres du groupe de jeunes ou des membres de l'église. Et ça t'a gêné, ça t'a frappé, ça te refroidit peut-être même dans les relations que tu es normalement appelé à tisser avec les autres. Mais je voudrais aussi attirer ton attention sur ce que dit la Bible. Il nous est dit dans le livre des Actes qu'il persévérait dans la relation fraternelle. C'est-à-dire que la relation fraternelle, c'est quelque chose qui se construit de façon permanente. Ça doit être une intention. C'est un choix que je fais d'aller vers les autres ou de laisser les autres venir vers moi. Les relations fraternelles, elles ne dépendent pas simplement de ceux qui m'entourent, elles dépendent aussi de moi. Et je pense qu'en se mettant devant Dieu, c'est aussi lui demander, mais montre-moi moi aussi ce que je peux apporter. Si j'ai du mal à recevoir des autres, Seigneur, ouvre mon cœur, de façon à ce que je puisse l'avoir en face de moi les miroirs dont j'ai besoin, les miroirs qui me sont nécessaires, pour mes points forts, bien sûr, pour être encouragé, mais aussi pour être me développer sur mes points faibles. Je peux être appelé à me concentrer sur ce qui me sépare des autres, sur les différences que j'ai avec les autres. Où je peux me concentrer sur ce que j'ai en commun avec les autres membres du groupe. Et j'espère que les uns et les autres, on a justement bien saisi que ce qu'on a en commun, c'est Dieu. C'est Dieu le Père. C'est lui qui nous donne la vie. C'est lui qui nous change. C'est lui qui nous transforme. C'est lui qui nous permet de manifester nos dons. C'est lui là qui peut changer nos cœurs. C'est lui qui peut nous apporter les encouragements, la consolation dont on a besoin pour que nous, à notre tour, on soit des facteurs d'encouragement, des facteurs de consolation. Alors je vous invite là vraiment à vous recueillir. On va prendre ce temps de prière, de méditation et on va recommencer à chanter. On va à nouveau entrer dans la présence de Dieu. Mais simplement à la lumière de ce que nous avons partagé ce soir, laissons Dieu nous parler.